Il restaure mon âme, c'est le sujet de ce matin. Et ce sujet, nous le trouvons dans ce magnifique psaume 23, le psaume du berger. J'aimerais qu'on lise dans les premiers versets, psaume de David, qui lui-même a été berger pendant de nombreuses années avant d'être le roi berger d'Israël. Et dans les premiers versets, il dit ceci: Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Et cette petite phrase qui ne paye pas de mine en réalité est extraordinaire. Parce que lorsqu'on se confie à Dieu comme notre berger, il restaure en effet notre âme. Notre âme est un monument en péril. L'âme de l'homme est quelque chose d'extraordinaire. C'est plus précieux que les diamants, hein, l'âme d'un homme ou d'une femme, bien sûr. Notre âme n'est pas notre cerveau. Hein, on a souvent l'habitude de penser que mon âme est dans mon cerveau. Non, notre âme, c'est ce que nous sommes, nous, vraiment. C'est notre être. Nous habitons dans un corps, le cerveau est notre ordinateur, celui qui justement dirige tout, nous permet de mémoriser, hein, c'est vraiment un ordinateur, le cerveau. Mais il y a quelqu'un qui dirige l'ordinateur, qui commande, c'est notre âme, c'est nous. Et au-dessus de nous, bien sûr, il y a notre Créateur. Mais cette âme que Dieu nous a donnée, qui est si précieuse, est abîmée, détruite parfois. Elle a besoin d'être restaurée. Elle est abîmée par quoi? Elle est abîmée par d'abord des millions de mauvaises pensées. Chaque fois que je pense à des choses mauvaises, ou que je laisse des choses mauvaises habiter, hein, ma pensée, je la souille, je la détruis. Chaque fois aussi que j'accumule une culpabilité, ça finit par détruire mon âme parce que ça pèse et mon âme s'affaisse et se détruit, s'abîme. Chaque fois que je suis gouverné par l'orgueil, la Bible dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Alors que par l'orgueil, on espère s'élever, en réalité, on s'abaisse. Et l'âme est avilie par l'orgueil. Je pense aussi à ceux qui sont blessés dans leur âme, par des souffrances, par d'autres personnes, hein, qui leur font du mal. Aujourd'hui aussi, dans le travail, il y a des gens qui sont harcelés. Et c'est leur âme qui en souffre le plus. Ils ne sont pas harcelés physiquement, mais c'est dans leur âme qu'ils en souffrent. Souvent, la plupart d'entre nous, nous avons abîmé notre âme en la souillant par le péché. C'est la cause principale de la dévastation de l'âme humaine. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'être restaurée. Le péché qui souille notre vie. J'ai pensé à cela avec cette image de la conscience qu'on représente sous forme de clôture. Il y a, lorsqu'on est enfant, cette innocence, puisqu'on n'a jamais fait de choses graves. Quand on est enfant. Et puis un jour, on est invité à passer au-dessus d'une clôture parce qu'on te dit, derrière la clôture, il y a des choses que tu n'as jamais vues encore. Il faut que tu goûtes ça, mais il faut passer la clôture. Et la clôture, c'est votre conscience qui vous dit, non, ne fais pas ça. C'est Dieu qui a placé la conscience dans notre âme, hein, dès notre naissance, dès notre création. Et Satan nous dit, passe la clôture parce que derrière, l'herbe est plus verte, n'est-ce pas? Et nous, on hésite parce que c'est la première fois que cette clôture se présente à nous et la première fois, c'est très dur. Parce qu'on se fait mal et on hésite beaucoup, on dit, oh, quand même. Non. Alors on revient en arrière. Et puis finalement, on passe la clôture et on attend que le ciel nous tombe sur la tête. Il ne se passe rien. Et puis on marche et on dit, hey, ça va. J'ai passé la clôture. Je me sens un peu coupable, mais ça va. Et puis on se promène là et puis Satan nous dit, Hey, tu vas pas t'arrêter là. Tu vas passer la deuxième clôture parce que derrière, il y a encore des choses plus intéressantes, tu vas voir. Il ne nous dit pas que ce sont des péchés devant Dieu. Il ne nous dit pas que chaque clôture qu'on passe, C'est notre conscience qui se démolit, qui se détruit. Il ne dit pas qu'à chaque clôture, le jugement de Dieu augmente. Non, il nous dit, derrière la clôture, tu verras, c'est merveilleux. Et c'est comme ça que l'homme, depuis son enfance, hein, souille sa conscience, clôture après clôture. C'est un fait avéré, hein, que les criminels qui font toutes sortes de méfaits, jusqu'aux crimes, jusqu'aux assassinats, ne commencent pas tout de suite comme ça. C'est que c'est petit à petit, ils franchissent ces barrières. Et ils se sentent de moins en moins coupables, jusqu'au jour où ils peuvent même tuer quelqu'un sans ressentir aucun remords. Les procès en assises, hein, sont remplis malheureusement d'êtres humains qui n'ont plus de remords, plus de conscience. Leur conscience est cautérisée. Ils peuvent tuer, massacrer, torturer, et on leur dit « qu'est-ce que vous ressentez pour la victime ?» Je sais pas. Alors que nous, rien qu'en étant, en entendant les faits, déjà, on est complètement bouleversé. Et lui qui a commis les faits, il ne ressent rien. Comment en arrive-t-on là? On dit « ce sont des monstres !» On dit « ils ont un problème dans le cerveau, psychiatrique ou je ne sais pas. » Mais ça a commencé par ces franchissements de clôture de la conscience. Et l'homme souille son âme, lui-même, hein, en obéissant à la voix subtile et maligne du diable, hein, et en n'écoutant pas la voix de Dieu. Le péché devient une habitude, la culpabilité fait de moins en moins mal, et notre âme est complètement souillée, contaminée. Parfois même, elle est violée, hein, par des choses qu'on nous oblige à faire quand on est enfant. Et l'âme humaine est bien fragile, bien précieuse, mais bien fragile. Rien n'arrive à nettoyer une âme qui est souillée de cette façon. Rien que le sang de Jésus-Christ. J'aime ce verset de Jérémie. Il dit, « Quand tu te laverais avec du nitre, hein, une sorte de vinaigre d'acide, quand tu emploierais beaucoup de potasse, donc la potasse, on faisait la lessive avec, hein, ton iniquité resterait marquée devant moi. » Vous pouvez utiliser tous les acides possibles, hein, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Votre conscience est marquée par le péché. Il n'y a qu'une seule chose qui peut laver la conscience, l'âme humaine, c'est le sang précieux de Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'on applique du sang, hein, comme ça, sur quelque chose d'immatériel. C'est la mort de Christ. C'est le fait qu'il ait payé pour nos péchés, qu'il les ait pris sur lui, qui nous permet d'être purifiés. Alors, quelles sont les choses que Dieu veut restaurer dans notre âme? Et j'en ai mis quatre, et il y en a beaucoup plus évidemment, mais j'aimerais juste parler de quatre choses principales. D'abord, c'est le pardon. Dieu veut restaurer notre âme en y apportant le pardon. Parce que notre âme est remplie de culpabilités qui lui font s'alourdir, hein, qui font que beaucoup de gens même sont courbés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens, ils vivent un peu courbés parce qu'ils ont un poids dans leur vie. Ils ne vivent pas la tête en l'air, le sourire. Il y a très peu de gens à Paris, hein, qui se promènent en regardant. Oh, non, à Paris, on est tous habillés en noir, avec des longs manteaux noirs, et on marche comme ça, la tête par terre. Pas un sourire, hein, pas un sourire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce poids que l'on porte, et on ne nous a pas dit comment l'enlever. Alors bien sûr, on essaye, hein, de l'enlever par toutes sortes de produits chimiques. J'aime bien cette petite historiette tout à fait irréaliste, mais qui dépeint un peu l'homme d'aujourd'hui. C'est une femme qui va voir le docteur, son docteur, et qui dit « Écoutez, c'est une urgence. Mon mari, ce matin, comme d'habitude, il a pris sa vitamine, il a pris son antidépresseur, il a pris son antihistaminique, il a pris son anti-ceci, il a pris son anti-cela, et puis après, il a allumé une cigarette et tout a explosé. » Et c'est vrai qu'on essaie de se gaver de pilules. Ah, si j'ai un antidépresseur avec des vitamines, peut-être que je vais mieux vivre. si je mange macrobiotique, si je mange végétarien, si... on essaye tout. Mais tout ça est limité. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous apporter le pardon. Les effets de la culpabilité dans l'âme sont terribles. Hein. D'abord, ça cause une dépression profonde. Il y a des personnes qui sont déprimées sans savoir pourquoi. Si on leur dit « Pourquoi tu es déprimé ?»« Mais je ne sais pas, moi. J'aimerais savoir. » Et ils traînent avec cette dépression. Ils ne sont jamais dans la joie, jamais libres. Parce qu'il y a ce poids dans leur vie qui n'est pas réglé. Certains vont jusqu'au suicide parce qu'ils disent « De toute façon, ma vie là sur Terre n'est pas du tout intéressante. J'ai ce poids, j'en ai marre. J'aimerais qu'on me libère. » Alors, qui va me libérer ? Personne ? Eh bien, moi, je vais me libérer tout seul. Et certains commettent l'irréparable. On peut aussi vivre ça différemment en devenant irrité, irritable. Vous avez déjà rencontré des personnes irritables ? Jamais ? Vous avez de la chance, c'est bien. Vous êtes une personne irritable ? D'accord. Lorsque notre conscience est travaillée, lorsque on n'est pas à l'aise, justement, qu'on n'est pas pardonné, on peut devenir irritable parce qu'on se sent mal. Il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps en train d'accuser les autres parce qu'eux-mêmes se sentent coupables. Et ils pointent le doigt en disant « Vous, regardez !» Mais en fait, comme on dit, il y a trois doigts hein, qui pointent vers eux. Et ça, ça souille, ça abîme l'âme. Certains deviennent violents même après la colère. Hein, il y a la violence qui suit. Le dénigrement de soi ou le dénigrement des autres. Combien de souffrances sont dues au manque de pardon. Et pourtant, le Seigneur nous fait une promesse extraordinaire. Et si vous cherchez le pardon, si vous cherchez à ce que ce poids soit enlevé de votre vie, il faut que vous écoutiez Romains 3, 23 et 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la condition humaine. Et ils sont gratuitement justifiés ou gratuitement pardonnés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On peut être gratuitement pardonné parce que Christ nous a rachetés. La rédemption, c'est le rachat. Christ a payé notre dette. Ça, c'est la promesse de Dieu. Vous pouvez être gratuitement pardonné. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un stage ? Il faut faire des cours combien je dois donner ? Non, il n'y a pas de cours. C'est gratuitement. Gratuitement. Moi, j'ai ça dans ma Bible. Hein. Dans toutes les Bibles, c'est gratuitement. Pardonner. La scientologie, hein, cette façon de faire où elle vous attrape dans ses filets en vous faisant passer une sorte d'audition où il vous révèle que votre âme est en très mauvais état. Et oh, vous êtes vraiment mal. Alors que vous, quand vous étiez entré, vous pensiez que tout allait bien. Et quand vous arrivez, ils vous font leur électromètre et puis ils vous disent « Oh là là, monsieur, c'est très grave, votre situation est très grave. Il vous faut vraiment une aide. » Mais qu'est-ce que vous... Alors la personne panique un peu parce que ça a l'air sérieux. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Eh bien écoutez, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas, on va prendre soin de tout, on va vous donner des cours. Et grâce à ces cours, votre âme va se purifier. Vous allez devenir quelqu'un d'extraordinaire. Regardez, Tom Cruise, ça va être vous dans quelques années. Hein? Ah bon, Mission Impossible et tout ça. Ouais. Et si on est un peu crédule, eh bien on commence à payer le premier stage et le second. Et puis ensuite, il faut acheter des livres. Et chaque fois, quand vous avez fini, vous dites... Je ne suis pas encore là. Ah non, vous êtes loin encore. Il faut payer, il faut acheter le stage suivant, là, l'étape suivante. Et chaque fois, vous banquez, vous banquez, vous banquez. Et en fait, vous, si vous êtes un peu conscient, vous découvrez que le but de la scientologie, c'est de prendre tout votre argent jusqu'au dernier centime qu'il y a sur votre dernier compte. Et quand vous êtes vidé de votre argent, il vous laisse tomber. Le Seigneur, évidemment, n'est pas comme ça. Le Seigneur dit, vous êtes gratuitement pardonné. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce que je dois payer ? Rien. C'est gratuit. C'est par la foi en Jésus-Christ qui vous a racheté. Je pense à la femme pécheresse qui est mentionnée dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, lorsque Jésus dîne avec ce pharisien, qui est un homme très bien moralement, et cette femme qui était prostituée, et qui a suivi le Seigneur et qui a cru en lui, elle vient pendant le repas aux pieds du Seigneur et elle se met à pleurer. Et avec ses larmes, elle mouille les pieds de Jésus et elle les essuie avec ses cheveux. D'une certaine façon, son comportement est un peu choquant, un peu ridicule. D'ailleurs, le pharisien chez qui Jésus dînait, dans sa tête, hein, il se dit, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est une prostituée. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est un peu indécent, là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous essuie les pieds avec ses cheveux ? Et en fait, cette femme, elle avait trouvé le pardon. Elle était libérée, pardonnée. Et ses pleurs, à mon avis, c'était plus des pleurs de joie que des pleurs de tristesse. Et on peut dire, oh, c'est ridicule, mais elle, elle a trouvé le pardon. Le pharisien, là, il n'a pas demandé pardon. Il se sentait très bien comme ça, mais il était perdu. Et le pardon de Christ, hein, est quelque chose d'extraordinaire. Les pires péchés peuvent être pardonnés. Les choses les plus profondes, les plus incroyables, les plus terribles peuvent être pardonnées par le sang de Jésus-Christ. Une autre chose, une autre restauration que Dieu produit dans l'âme, quand on se confie en lui, c'est la purification. Vous savez qu'il y a une différence entre le pardon et la purification. On peut être pardonné, mais pas purifié, malheureusement. Et si vous n'êtes pas purifié, vous allez recommencer les mêmes choses. Le pardon va plus loin, la purification va plus loin que le pardon. Elle enlève la racine du mal. J'aime ce que disait Spurgeon, le prédicateur anglais, au sujet de Jésus lorsqu'il guérissait les lépreux. Il dit, Jésus ne guérissait pas les plaies des lépreux. Parce que les lépreux ont des plaies terribles. Hein. Ils ont même, finalement, ils finissent par s'abîmer, hein, les membres de façon terrible. Il dit non, Jésus guérissait la maladie de la lèpre. De la même façon, hein, et dans la Bible, la lèpre est une image du péché. Dieu ne veut pas juste guérir l'apparence du péché ou nous pardonner simplement et dire maintenant, je t'ai pardonné, mais maintenant il faut que tu marches droit, attention, hein. Il nous purifie profondément. Mais pour que Dieu nous purifie profondément, il faut lui ouvrir notre âme. Dieu ne force jamais personne. C'est sa particularité de créateur gracieux. Il ne s'impose jamais à sa créature. Et pour que Dieu purifie notre âme, il faut lui livrer notre âme. Quelque part, il veut dire « Seigneur, purifie mon cœur ». Il y a quelques années, dans un laboratoire qui traitait du plutonium, donc ce qui est utilisé pour les centrales atomiques, il y a un laborantin qui manipulait un demi-gramme, de plutonium et il l'a fait tomber et ça fait une mini-explosion. Cette pauvre personne a été gravement blessée. Et donc, le plutonium a explosé dans l'air de ce laboratoire. Dès qu'ils ont appris cela, les autorités ont mis en quarantaine pendant plusieurs jours, plusieurs kilomètres carrés autour du laboratoire. Ils ont fait venir tous les habitants qui habitaient autour. Ils ont dit, venez avec vos vêtements, on va vous faire une douche décontaminante, on va vous mettre des produits décontaminants, on va regarder si vous avez été contaminé, des prises de sang. Juste parce qu'un demi-gramme de plutonium avait explosé. Il fallait tout décontaminer parce que le plutonium est radioactif et peut être bien sûr dangereux. Eh bien, je vais vous dire, le péché, c'est pareil. Le péché souille, pas seulement soi-même, il a des effets dévastateurs dans la famille, dans le monde. On subit beaucoup les péchés des autres. Et pour purifier le péché, il faut une décontamination de choc. Lorsque je suis pardonné, c'est merveilleux parce que je peux dire, voilà, Dieu ne me tient pas coupable de ce péché. Dieu ne m'en veut plus, si on peut dire. Je ne suis plus sous le jugement de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Mais maintenant, est-ce que je suis vraiment purifié? Pour être purifié, il faut se repentir quand même. Il faut dire, mais Seigneur, je ne veux plus recommencer ce péché. J'ai besoin que tu enlèves le cœur du péché. Pourquoi j'ai fait ce péché? Pourquoi j'ai fait ce péché? On n'a pas toujours la réponse. Hein. Mais ça peut être par orgueil, par rébellion, par vanité, par habitude, je ne sais pas, il y a plein de raisons. Mais Seigneur, maintenant je te remets ce péché. Et ce que Dieu veut faire pour restaurer notre âme, il a besoin de notre collaboration. Notre collaboration, c'est de dire, Seigneur, voilà, il y a ce péché dans ma vie, j'ai besoin que tu m'en purifies, que tu enlèves la racine, que ça ne ressorte plus. Est-ce que vous avez des péchés comme ça dans votre vie? Chaque fois, vous demandez pardon et vous croyez au pardon de Dieu, mais chaque fois, ça ressort, ça revient. Vous dites, c'est pas possible, c'est toujours là. Et au bout d'un moment, vous dites, est-ce que Dieu va finalement me pardonner la prochaine fois? Parce que ça recommence, ça fait 27 fois aujourd'hui que je commets ce péché. Mais Dieu est prêt à vous pardonner, mais ce qu'il veut plus que ça encore, c'est nous purifier. Dans le prophète Ézéchiel, chapitre 36, il y a cette promesse extraordinaire, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Parfois, il y a une idole dans notre vie qui a plus de place que Dieu et qui, justement, nous ramène toujours à la rébellion, à la faute, au péché, et on ne se rend pas compte que c'est cette idole le problème. Et Dieu veut nous purifier de nos souillures et de nos idoles. Il a dit dans l'épître de Jean, 1 Jean 1,7, si vous confessez vos péchés, hein, il est fidèle et juste, il a dit, le sang de Jésus-Christ vous purifiera. Le sang de Jésus-Christ, encore une fois, pour être purifié, il faut venir à la croix et dire, Seigneur, voilà, je te remets ce péché, je le recommence perpétuellement parce qu'en fait, j'y tiens. Et c'est ça la véritable raison qu'on n'est pas encore purifié. C'est qu'on y tient à ce péché. On l'aime bien, au fond. Et tant qu'on l'aime bien, on ne peut pas en être purifié. Je dis toujours ça avec ceux qui essayent d'arrêter de fumer. Vous pouvez prendre des patchs, des gélules, des piqûres, tout ce que vous voulez. Si vous aimez fumer, ça va être très, très dur d'arrêter, pour ne pas dire impossible. Pour arrêter de fumer, il faut reconnaître que la cigarette est un poison qui est en train de m'empoisonner, de me tuer à petit feu, c'est le cas de le dire. Et qu'elle est en train d'injecter des choses dans mon cerveau qui sont horribles, dans mes poumons, dans ma gorge, des choses qui vont pourrir et qui vont me donner des cancers et qui vont boucher mes veines. Quand vous voyez la cigarette comme ça, c'est-à-dire telle qu'elle est vraiment, vous pouvez commencer à arrêter de fumer. Mais si vous dites, ah, moi j'aime bien fumer, quand je prends ma cigarette, je fais ce geste. J'étais fumeur, je peux vous en parler. Vous avez remarqué d'ailleurs, j'ai le bon geste. Il y a ce rituel du fumeur, hein, la façon dont il allume, la façon dont il tire la première bouffée, la façon dont il crache la fumée ou l'avale. C'est un rituel, c'est une idole, hein, ça devient quelque chose qui est important. Et c'est vraiment un piège parce que c'est un poison. C'est pas parce que vous avez des gestes super élégants que vous n'êtes pas en train de vous empoisonner. Le péché est du même ordre. Hein. Et tant qu'on y tient, tant qu'on l'aime, et il y a un moment, il faut dire, Seigneur, je dépose ce péché que j'aime sur l'autel. Et je veux qu'il meure, ce péché. Je veux qu'il disparaisse. Je veux que tu purifies parce que moi, je n'y arriverai pas. Et là, le Seigneur peut vraiment nous purifier si on collabore. Un peu comme Abraham a dû amener son enfant, hein, qui n'était pas un péché, bien sûr, mais Dieu a dit, est-ce que tu es prêt à offrir ton fils Isaac? Et Abraham a été prêt à offrir à Dieu son fils Isaac. Alors que c'était le fils de la promesse, le fils unique, le fils promis, le fils attendu depuis des années et des années. Dieu lui dit, donne-le-moi. Autant donner ma vie, hein. Mais il fallait qu'Abraham apprenne à ne avoir aucune idole dans sa vie, même pas son propre fils. Et bien sûr, Dieu lui a redonné Isaac. Hein. Il n'a pas perdu Isaac. Mais il fallait qu'il fasse ce geste de l'offrir. Et c'est pareil avec le péché aussi, avec nos vies, avec certaines choses, des idoles de notre vie. Il faut les donner pour que Dieu les purifie. La troisième chose que Dieu veut restaurer dans notre âme, c'est donner une nouvelle paix, parce que notre âme est souvent pleine de souffrance, d'angoisse. Il y a beaucoup de gens qui vivent en réaction perpétuelle. Ils réagissent, par exemple, à leur enfance. Voilà, dans mon enfance, j'ai pas eu ça. Alors je vais faire tout pour l'avoir, maintenant que je suis adulte. Ou dans mon enfance, j'ai subi ça. Alors maintenant, je vais vivre en réaction avec ce que j'ai subi. Et il y a des personnes, ils sont en perpétuelle réaction. Ils ne vivent pas parce qu'il faut conduits par Dieu, ils vivent conduits par leur réaction. Il y a des personnes qui n'ont pas digéré leur enfance ou digéré des souffrances qu'ils ont vécues ou des échecs. Et ils sont toujours avec ça, sur ce fardeau sur le dos. Et le Seigneur veut restaurer notre âme. Il veut mettre le compteur à zéro. Il veut enlever toute réaction, toute angoisse, toute crainte. Il y a des personnes qui s'enferment par rapport aux autres parce qu'ils gardent quelque chose et ils n'ont pas réglé ça avec Dieu. Même ils sont chrétiens, ils ont cru au Seigneur, mais ils n'ont pas réglé certaines choses. Ils ne sont pas libres. Et quand Dieu dit « Je veux restaurer ton âme », il veut restaurer jusque-là, nous donner une liberté. Je pense à certaines femmes qui ont été abusées, certaines jeunes femmes abusées sexuellement dans leur enfance. C'est quelque chose qu'on porte toute sa vie d'une certaine façon, parce qu'on est marqué, mais en même temps, on peut être libéré de ça. On n'est pas obligé de vivre toute sa vie en disant « Je suis sale » ou « Je suis quelqu'un de... Je suis un objet, je suis une personne... » Haï, non, je ne suis pas obligé de vivre comme ça parce que le Seigneur m'aime, le Seigneur me purifie, le Seigneur me donne sa paix, sa grâce, et je suis une personne précieuse à ses yeux. Et ce qui m'est arrivé, ce n'est pas de ma faute, on a abusé de moi, le Seigneur jugera en son temps, mais le Seigneur veut me libérer de ce fardeau. La promesse de Christ se trouve en Jean 14, 24. Peut-être certains d'entre vous la connaissent bien déjà, mais je vous la relis parce qu'elle est trop belle. Ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Alors, ce n'est pas ça la référence. Est-ce que ça peut être Jean 4? Je vous laisse ma paix. 14, 27. Merci. Jean 14, 27. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'aime bien cette idée, hein, d'être troublé, d'être alarmé, d'être paniqué, d'être angoissé. Le Seigneur dit, je te donne ma paix. Pas comme le monde veut te donner la paix. Je te donne la vraie paix, celle qui est profonde. La paix au fond des océans, vous savez. Il peut y avoir un cyclone en haut, au fond, c'est calme. C'est ça que le Seigneur veut nous donner. Il veut restaurer notre âme. Là encore, il faut lui remettre les choses qui nous troublent. Seigneur, je suis angoissé. Il y a tellement de gens angoissés, même dans les églises, hein, qui prennent des antidépresseurs, des choses comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre leurs angoisses. Le Seigneur veut nous délivrer de ces angoisses. Il a dit... Il restaure notre âme. Et puis, la dernière chose que Dieu veut restaurer, ce sont les priorités dans notre vie. On a souvent un problème de priorité. On met en premier des choses sans valeur et en dernier les choses les plus importantes. Tant qu'on ne connaît pas le Seigneur, on s'en mêle un peu les pinceaux dans les priorités. On pense beaucoup à soi d'abord, moi, et les autres après. Il faut voir comment les familles, par exemple, des fois sont gérées. Hein. C'est chacun pour soi. Les enfants, ils trinquent, hein, à chaque fois. Et Dieu veut restaurer notre âme et remettre les bonnes priorités. C'est les autres d'abord. Mais en fait, même plus que ça, c'est Dieu en premier, les autres ensuite, et moi après. Ça, c'est la bonne priorité. Mais pour ça, il faut que ce soit Dieu qui le fasse et il faut qu'on lui remette nos priorités. Seigneur, je veux que tu sois premier dans ma vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Et après que j'ai cherché le royaume de Dieu, il va me conduire vers les autres. Ma famille d'abord, hein, mon prochain. Tu aimeras ton prochain. Donc celui qui est proche, à côté. Ta famille, tes collègues, tes amis, ton voisin dans le métro, dans le bus. Et après, on prie pour soi. Après, on s'occupe de soi. Or, notre tendance est évidemment d'être narcissique, égocentrique. Moi d'abord, tous pour un, tous pour moi. Hein? Un pour tous pour moi. Comme avait dit ce conseiller marital, hein, ce qui est important dans l'amour, dans le couple, c'est d'abord que vous vous aimiez vous-même. Très bien. Pas de souci, je m'aime beaucoup déjà. J'ai jamais eu de problème de couple avec moi-même. Non, le problème des couples, c'est d'aimer l'autre, pas de s'aimer soi-même. Le Seigneur veut remettre les priorités, il veut enlever les pertes de temps, les négligences, les bêtises, et il veut mettre en premier ce qui compte pour l'éternité. Jésus nous invite à regarder au trésor éternel, il dit « Faites-vous un trésor dans le ciel, parce que sur la terre, ça va pourrir, ce sera volé. » Et sur la terre, on peut accumuler de l'argent, on peut passer par exemple 15 heures par jour au boulot pour avoir un salaire correct. Alors après, bien sûr, on va aller en vacances parce qu'on a un peu plus de moyens pour aller en vacances. On va avoir des super vacances. Mais la famille dans tout ça, les enfants, quand on quitte le bureau, la maison, ils dorment. Quand on revient le soir, les petits sont couchés. Et la conclusion, c'est quoi ? C'est j'ai raté quelque chose. Je suis passé à côté de ma famille. J'ai modifier la priorité de Dieu. Et quand le Seigneur restaure l'âme, il remet les choses à leur bonne place. Et la vie devient beaucoup plus profonde, équilibrée, bénéfique pour les autres. Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Seigneur restaurer notre âme ? Parce qu'on aime bien cette phrase, « Il restaure mon âme ». Mais il faut accepter qu'il vienne faire le ménage, si on peut dire. Qu'il vienne travailler hein, dans notre âme et purifier les choses qui doivent être purifiées. Remettre à leur place les choses qui doivent être à leur place. Lorsqu'on est dans un lieu de travail, c'est important que ce lieu de travail soit toujours rangé. Les cuisiniers en savent quelque chose. Un cuisinier, normalement un vrai cuisinier, lorsqu'il a fini, tout est lavé, rangé. Il ne laisse pas le bazar partout. Il ne fait pas les légumes là où il a fait la viande. Hein. Il ne mélange pas la viande crue et les légumes. Tout doit être à sa place pour bien travailler. C'est pareil dans la vie. Si on veut avoir une vie accomplie et bénie, il faut que tout soit à sa place. Et c'est le Seigneur qui nous aide à mettre les choses à leur place. Il faut lire la Bible. Il faut suivre les indications du bon berger. L'Éternel est mon berger. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.